This is a vicious expose of a part of the young generation, that sick generation who must ravage and plunder for their kicks.
Culture Prohibée attaque Gérard May. Avant-dernière émission, en direct du 19e Festival International du Film Fantastique de Gérard May. À cette occasion, nous remercions Public System pour nous permettre de faire cette émission quotidienne, une émission préparée et animée par les équipes des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Et pour en savoir plus sur votre émission préférée, il y a bien sûr le blog culture-prohibée.blogspot.com. Je suis accompagné, comme tous les jours durant ce festival et dans cette émission qui traite de l'actualité de la culture panette du ciboulot, par mon acolyte favori, un yéti breton dont le pseudonyme est Pierrick Guenec. Salut Pierrick.
Bonjour Jérôme.
Et donc nous voilà aujourd'hui pour cet avant-dernier jour de film en compétition, ainsi que pour la compétition court-métrage d'ailleurs. Et ce matin donc nous avons pu voir un film, un film sud-coréen qui s'appelle The Cat, donc qui a été réalisé par un ancien assistant de Lee Dong-chung qui avait travaillé avec lui sur Peppermint Candy. Ce monsieur s'appelle Byun Sung-wook. Alors j'espère que je n'écorche pas son nom. Et nous avons donc vu son deuxième film qui s'appelle The Cat, qui raconte l'histoire de So-yoon, qui est donc toiletteuse dans une animalerie. Elle prépare un petit chat en lui faisant des joues roses, un petit chat blanc en lui faisant des joues roses. Et puis ce petit chat, sa propriétaire vient le récupérer. Et puis sa propriétaire prend un ascenseur. Et puis sa propriétaire n'arrive pas vivante en fait au 8e étage où elle habite. Et donc le mari ne veut plus du chat, considérant que c'est le chat qui a amené le malheur dans le foyer. Il refile le chat donc à la jeune, belle et fragile, mais en même temps tourmentée car elle ne sourit jamais, So-yoon. Et voilà, et puis c'est parti pour un film à base de fantômes où en fait le chat apparaît une petite fille fantomatique. Donc de ce postulat vu mille fois apparaît un film déjà vu mille fois. Donc je ne m'étendrai pas plus sur ce film qui m'a plongé dans un ennui plus que considérable. D'autant plus que, pour une fois, depuis le début de la semaine, pour une fois, nous tombons d'accord avec Pierrick, n'est-ce pas, Pierrick ?
J'ai beaucoup aimé le film. Bon, même si c'est pas un grand film. Alors, j'aime moi la partie fantastique du film. Donc, c'est un petit peu tout ce que tu viens de décrire, le côté fantôme et tout ça, qui est surtout prégnant dans la première partie du film. C'est pour ça que finalement, il m'a laissé un bon souvenir, parce que je trouve qu'au fur et à mesure, le film s'améliore pas mal. Et moi, j'ai beaucoup aimé le couple qui est au centre de l'histoire, qui se forme au fur et à mesure de l'histoire. J'ai bien aimé leur enquête aussi. Et j'ai trouvé qu'il y avait une galerie de personnages aussi très bien campés, assez savoureux. L'héroïne, tout le parcours de l'héroïne qui est effectivement très joli et qui finit par sourire à la fin. Enfin, tout ça, c'est assez touchant. Non, moi, j'ai passé un très bon moment.
Il y avait plein de petits chats qui miolaient et qui étaient mignons. Des petites boules de poils qu'on avait envie de serrer très fort dans ses bras. Hein. Non, moi je vais pas m'étendre là-dessus plus longtemps parce que franchement j'avais pas du tout aimé le film.
Non, je trouve que c'est un ressort classique, hein. Bien sûr, le couple qui se trouve finalement au sein d'une enquête et d'une intrigue un peu policière, parce qu'il y a un petit peu de ça aussi dans le film, ce qui reconstitue le pourquoi cette petite fille apparaît. Enfin, moi ça m'a bien botté.
Bon, moi je trouve en fait que dans le film il y a une seule scène qui a réussi, c'est une scène qui provoque un peu le malaise et qui en même temps. Bon, parce que bon, la petite fille, en fait, sa grand-mère a Alzheimer, mais la cherche régulièrement dans les rues. Et puis, dans leur enquête, la belle So-yoon est amenée justement à rencontrer cette grand-mère. Et bon, elle va chez elle, lui demande des nouvelles de sa fille, tout ça. Et puis bon, au même moment, le fils arrive, le fils qui est un type bourru, étrange, pas sympathique, et qui a le profil, en fait, pour avoir tué sa propre fille. Et au moment où il arrive, elle lui demande bien sûr des nouvelles de, je crois que c'est Ijin qu'elle s'appelle, la fille, un truc comme ça. Elle demande des nouvelles de sa fille parce qu'elle a disparu. Et lui la sort violemment, il sort violemment So-yoon de l'appartement. Et après, bon, il frappe sa mère avec un oreiller, quoi. Mais le personnage c'est vraiment une scène assez malsaine et qui fout un malaise certain au milieu de ce film quand même. bien calibré, bien gentillé, enfin vraiment qui ressemble à tous les Shimizu et puis les premiers Nakata et tout ça quoi. Et en fait cette scène elle détonne dans le, par rapport au reste du film, je trouve. Et en plus c'est vraiment bien foutu parce qu'en fait à travers cette scène on découvre en fait que le père est enfin ces raisons qui font qu'il est bourru, il a pas toujours été bourru quoi, c'est pas spécialement un psychopathe, c'est juste un type qui vit dans le deuil de sa fille et qui le vit très très mal quoi. Je trouve que la scène est plutôt réussie. Bah après en dehors de ces 2 minutes de film, les 1h28 qui restent m'ont profondément ennuyé. Alors Pierrick, aujourd'hui tu nous as fait quelques infidélités, es-tu donc allé voir quelques films hors compétition? Alors un film qu'on avait déjà chroniqué à l'occasion du Festival International du Film Fantastique de Strasbourg, puisqu'on avait eu la chance, le bonheur d'interviewer Lucky Mackie, son réalisateur, à savoir donc The Woman, et puis un autre film qui s'appelle Chronicle, qui est un film de super-héros, donc tu vas pouvoir nous parler de ces deux films, je te laisse la parole.
Bon bah je vais pas m'étendre sur The Woman si vous en avez parlé, et puis en plus comme j'ai cru comprendre qu'on était un peu du même avis, ça serait redondant. Non, j'ai trouvé vraiment ce film fabuleux, enfin le film que j'aurais attendu en compétition à Gérardmer, mais bon je comprends bien que comme il avait déjà tourné dans d'autres festivals et était primé également, bon c'était peut-être pas la peine de le remettre en compétition à Gérardmer. Enfin non, c'est vraiment un film fabuleux qui instaure beaucoup de malaise. Enfin on y retrouve des ingrédients, bon c'est violent, enfin à la fois sur le plan moral et physique. Enfin bon, je sais pas si c'est la peine de raconter l'histoire.
Oui, bah disons que c'est une version trash de l'enfant sauvage avec une femme à la place.
Mais oui, bon, c'est un petit peu ça. Voilà, une femme élevée par les loups. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on comprend au départ. Et puis il y a ce père de famille très très respectable en apparence. Bon, c'est, évidemment, ça c'est un vernis qui capture cette femme-là et qui décide de la civiliser. Puis autour de lui, bon, il y a toute sa petite famille. Bah, évidemment, on découvre que ce type est complètement barré, que c'est un psychopathe en puissance, avec des moments assez drôles. Enfin, il y a vraiment des moments de malaise, des moments drôles, mais peut-être parce que justement il y a ce côté très qui crée le malaise un petit peu, ou des moments complètement surréalistes quoi, dans la façon qu'il a d'agir, avec une certaine bah finalement oui, lui il perd jamais, enfin ici il perd son calme, mais bon il agit avec une extrême normalité en disant en disant et en agissant de façon qui nous paraît énorme. Enfin bon, en tout cas à travers le portrait de cette famille, j'ai trouvé aussi qu'il y avait tout l'image d'une Amérique complètement malade, enfin qui laisse un petit peu, enfin ouais, des complètement délétères, et l'éducation des enfants laissée à volo, enfin voilà, donc une image très très pessimiste et très noire en tout cas des États-Unis.
Un beau film féministe aussi d'ailleurs, The Woman. Bah, Chronicle
complètement, parce que le personnage, enfin l'acteur est fabuleux d'ailleurs pour jouer ce personnage qui est odieux et d'une rare misogynie.
Et donc Chronicle, film féministe aussi?
Non, pas tout à fait. Bon, non, là on est un peu dans le film, le film distrayant. Bon, alors je vais passer peut-être passer vite fait sur le mauvais côté du film. Bon, moi il y a un procédé que j'aime pas du tout, c'est le procédé à la.
Excuse-moi, je vais juste préciser le réalisateur, c'est Josh Trank. Donc le réalisateur de ce film, qui est un film
d'histoire,
le
scénario peut-être aussi. Enfin bon voilà, c'est trois lycéens qui se découvrent des super pouvoirs. Et bon, au départ, c'est plutôt du délire. Enfin voilà, ils s'amusent, ils commencent à faire des farces avec leur super pouvoir. Enfin, ils ont les mêmes pouvoirs de toute façon. Ils sont tous télékinésistes. Donc, ils commencent à faire des farces. Ensuite, bon, il y en a qui est un peu le bouc émissaire au lycée. Voilà, bon, on retrouve une figure assez rituelle hein, dans les films américains d'adolescents et de lycéens, c'est-à-dire il est brimé par ses camarades, ça se passe mal à la maison parce que son père est au chômage, il picole, il le frappe, il le rudoie en tout cas, sa mère est gravement malade. Voilà, tout le portrait du gamin qui est vraiment pas bien dans sa peau et qui, ce super pouvoir va à la fois lui permettre d'épater la galerie, puis on va remarquer aussi qu'il a des accès de colère et de rage qu'il a accumulé suite à tout ça, et donc il commence à déraper complètement. Bon, donc ça raconte voilà l'histoire de ce trio. Alors le côté énervant, voilà, c'est le sur la forme, c'est-à-dire on va filmer à la Blair Witch. Bon, on nous évite le coup de la cassette qu'on retrouve après, qu'on revisionne pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, sinon c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont une caméra avec eux, elle tourne parmi les trois gamins, et donc c'est les images de cette caméra. Et le film étant même le principe, finalement finit par le vider complètement de son sens, c'est-à-dire que il y a aussi la copine d'un des lycéens qui a aussi une caméra, donc il y a aussi des images de cette caméra là il y a même des images de vidéosurveillance à un moment quand il braque une épicerie. Enfin bon, finalement ça vide complètement le procédé de son sens. Puis en plus au niveau bon, moi c'est aussi pour ça que j'aime pas ce procédé, c'est, je trouve au niveau esthétique ça donne jamais des très belles images. Enfin bon, c'est très facile et puis c'est jamais tenu complètement. Enfin il y a toujours un moment où il y a des angles improbables, on se dit voilà, c'est pas possible que ce soit eux qui aient filmé. Enfin bon, sauf que là il manie la caméra par télékinésie, donc ça simplifie peut-être le truc. Mais voilà, donc ça donne un film plutôt sympa avec une espèce de finale à la Akira où Bon,
le monde explose alors, c'est ça.
Je vais spoiler un peu, non, c'est pas le monde qui explose, mais bon voilà, il y a une espèce de grande confrontation dans la ville, il y a des immeubles de détruits, des voitures qui explosent, tout ça, donc voilà, c'est plutôt très divertissant.
C'est après un film, le film post-apocalyptique d'hier, là c'est un film pré-apocalyptique.
C'est à peu près ça.
Alors, il y avait aussi cet après-midi une compétition de court-métrage. L'année dernière, la compétition de court-métrage nous avait bien plu, mais restait très inégale. Il y avait des très bons court-métrages et des court-métrages très anecdotiques. Et cette année, il faut bien dire que la compétition, moi j'aurais bien du mal à en sortir un, j'en sortirais deux, voire trois. La compétition court-métrage était, pendant que tu regardais The Woman, on a vu une compétition court-métrage, nous, assez homogène de notre côté, avec bon des choses alors pas inédites, des courts-métrages je l'ai déjà passé en télé, enfin bon, mais bon c'est pas grave, enfin bon c'est quand même un plaisir de les voir sur grand écran. Donc il y avait 7 courts-métrages, donc tous français dont un franco-suisse, et la compétition a débuté avec Le Cri, qui est une réalisation de Raphaël Mathier en fait, et c'est un court-métrage assez étrange en fait, qui se passe dans une sorte de ferme isolée, dans une forêt près d'une montagne, puis un gamin un peu mystérieux qui trimballe avec lui un scarabée toujours avec lui un petit scarabée qui protège tout ça, enfin bon, et puis il entend un bruit, alors au moment du repas donc avec on devine ce qu'on devine être une grand-mère et puis deux types assez bourrus dont l'un doit être son père puisque il est très affectueux avec lui. Puis ce gamin donc, hein, et puis il leur dit bon voilà, j'ai entendu qu'on écorchait quelqu'un, enfin dans la montagne, et puis les adultes ils disent ouais, t'as dû rêver, et puis bon, au bout d'un moment ils réentendent le cri, donc ils décident d'aller voir ce que c'est, et puis bon voilà, jusqu'au Deus Ex Machina, bon je révèle pas plus, d'autant plus il n'y a pas grand chose à révéler en fait, malheureusement le film est vraiment, vraiment beau, les acteurs sont bons, l'esthétique du film vraiment très travaillée, les plans sont vraiment très bons, mais comment dire, c'est un peu vain en fait, c'est un film un peu vain, je le garderai pas spécialement en mémoire, même s'il y a des qualités hein, quand même dans la réalisation, mais bon, alors pour passer un peu vite, on va aussi enlever le dernier film de Hugues Espina, ça s'appelle La Mère Nature, enfin c'est un jeu de mots, la mère, L'A-M-E-R-E, et plus loin de nature, enfin bref. Donc avec Lou Doualon, en fait, au début un type lui dit qu'il l'aime, mais c'est filmé en caméra subjective, et à un moment il n'y a plus la caméra subjective, enfin bon, on découvre qu'elle essaye de le protéger d'elle-même, bon, qu'elle n'est pas normale en fait, enfin bon, voilà, jusqu'à la révélation finale que je ne vais pas spoiler, comme on dit maintenant, enfin bon, bon sinon je vais juste me contenter de ne pas vous la révéler, mais donc voilà, et qui est censé faire l'effet de surprise, bon... C'est pas extraordinaire, mais bon, je pense que le réalisateur aime bien Lou Doualon et qu'il s'est fait plaisir, quoi. Hein. Donc ça, c'était réalisé par Hugues Espinasse. Puis on va passer un peu, ensuite à deux autres, deux trois autres cours en fait, qui pour moi sont des cours de qualité, mais qui ont quelques menus défauts. Alors, il y avait Tommy qui était le deuxième court-métrage projeté Tommy de Arnold de Parsco. Alors Tommy, c'est esthétiquement c'est vraiment très réussi. C'est un gamin qui est chez son psychanalyste et puis il explique qu'il a fait un petit bateau en bois, qu'il avait très hâte de le montrer à son père. En même temps, on voit son père qui est absolument ignoble, qui parle à la mère en lui disant tiens, on a presque l'impression que ça sent la bouffe ce soir. Pendant qu'elle est en train de faire à manger, elle fait un truc au cognac, elle en boit autant qu'elle en met dans la casserole. À côté, il y a la jeune frangine qui est en train de faire des SMS avec un gros plan sur son décolleté ravageur parce que le pater regarde les nichons de sa propre fille. Enfin bref, c'est voilà, le pater est un personnage absolument ignoble. Bien sûr, ça va dégénérer. Le petit Tommy va faire payer cher à son père le fait de pas avoir remarqué son petit bateau, quoi. Et voilà, quoi. Donc c'est assez rigolo, et il y a un côté Alice au pays des merveilles version trash, en fait, où le gamin traverse le miroir en passant à travers sa soupe et pour basculer en une sorte de violence complètement jouissive, et puis aussi des scènes assez délirantes. Court métrage très sympathique avec une facture plastique quand même très réussi, facture plastique très réussi. C'est un peu ce qui caractérise aussi le Lac Noir, hein, qui est franco-suisse, donc qui est de Victor Jacquier. Bon, un film dont l'histoire a finalement assez peu d'importance, hein. C'est dans une sorte de monde imaginaire, de conte, où en fait une femme fait le même cauchemar toutes les nuits, et elle vit avec un type qui l'a recueillie. Et ce type va à la pêche, il pêche une sorte de poisson énorme à l'intérieur duquel il y a une sorte d'enfant, pendant qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant, il le ramène à la maison. Enfin, après, ça part dans des trucs de sorcellerie, tout ça. Enfin bon, mais c'est pas très grave, en fait, parce que ce qui est important dans le film, c'est l'aspect esthétique. Alors là, pour le coup, il y a un travail en post-production, certainement, qui est énorme, mais pour le coup, l'aspect visuel du film, c'est sublime, quoi. C'est vraiment la plastique du film extraordinaire, la photo est très belle, et on est vraiment dans un univers de fantasy. Et c'est vraiment énorme, c'est magnifique, c'est très très beau, et c'est vraiment à voir absolument, mais pour le plaisir des yeux, quoi. C'est un très très beau court métrage. Et puis il y avait aussi un autre court métrage qui s'appelle Scylla. Alors c'est un court métrage de Aurélien Poitrimou et Jean-Charles Godin, avec avec le meilleur casting féminin de tous les courts métrages, hein, dont une jolie brune qui est un peu le sosie de Jessica, le personnage de Jessica dans Troublade, en fait, sauf qu'elle est pas rousse, elle est brune, quoi, mais bon, un peu près le même visage. Et puis c'est un film qui est aussi, en fait, entre la parodie et le sérieux, qui trouve jamais vraiment son ton, mais devant lequel on passe un super bon moment, avec en plus assez étonnamment des très beaux plans de cinéma, quoi. Et donc ça démarre un peu comme un slasher et ça se termine comme quelque chose qui baigne un peu dans l'imaginaire, avec une créature monstrueuse qui est très belle, qui apparaît que très furtivement. On devine que c'est une question de budget, hein, qui apparaît que lors d'une scène, mais d'une très belle scène. Et en fait, c'est trois jeunes gens, donc deux bombes atomiques plus un beau gosse, et c'est trois américains, donc le beau gosse c'est Stephen, les deux bombes atomiques, il y a la blonde et la brune, et la blonde est très blonde, et la brune elle est très particulière, un peu mystérieuse, et elle dort toute seule dans sa tente pendant que Stephen et sa blonde essayent de faire l'amour dans leur voiture, alors qu'ils se sont sentis épiés par le garde-côte alors qu'ils étaient en bikini sur la plage en début de journée. Ça aura son importance, le garde-côte va revenir dans cette histoire incroyablement rocambolesque. Et tout à coup, on se devine bien qu'il y a des trucs qui se passent dans le décor, mais on sait pas trop quoi. Et au moment où ils sont prêts à passer à l'acte, nos deux tourtereaux, pendant que la brune dort dans sa tente, la blonde croit apercevoir quelque chose, et c'est le début d'une de quelque chose qui navigue entre l'humour et le fantastique, avec du coup la blonde, enfin ils font tout l'inverse de ce qu'il faut pas faire dans un slasher, quoi. C'est-à-dire que la blonde envoie son petit copain tout en restant toute seule dans la voiture, et elle crie, elle klaxonne toute seule dans la voiture, donc pour pas se faire repérer, c'est excellent, quoi. Donc elle klaxonne, donc ça réveille la brune qui débarque, et puis le seul truc qu'il trouve à faire, c'est que la brune s'en va toute seule pendant qu'elle doit klaxonner toutes les 3 minutes pour l'avertir qu'elle est toujours vivante, mais aussi elle allume les phares au cas où, pour pas qu'on la repère. Enfin bon, c'est assez drôle. Et puis en fin de compte, la brune retrouve Stephen, elle est kidnappée, attachée dans une caravane, et nous n'en dirons pas plus, si ce n'est que le casting de jeunes est plutôt bon. Et les deux anciens qu'on trouve pour faire la deuxième partie du film, malheureusement, jouent un peu faux, je trouve. Mais le film est très plaisant, très agréable à regarder. Et puis après, dans le genre très plaisant, très agréable à regarder, mais nettement un cran au-dessus, il y a un... un court-métrage qui avait déjà été diffusé dans Court Circuit sur Arte, qui s'appelle L'attaque du monstre géant suceur de cerveau de l'espace, Attack of the Giant Brain Sucker Monster from Outer Space. Alors c'est extra, ça démarre comme un film de comme un film de Jacques Demy. Alors c'est une comédie musicale très colorée où deux jeunes tourtereaux vont partir à Paris dans une sorte de Paris de carte postale et tout, que d'ailleurs ces deux jeunes tourtereaux on les revoit pas du film parce que dès le début y en a un qui sort dans son jardin, il se prend un méga rayon dans la tronche après que son chien ait été carbonisé par ce rayon, et quand sa copine sort, bah voilà, ça se termine mal pour elle parce que lui est devenu zombie quoi. Et après on retrouve d'autres héros, donc un couple qui sort du cinéma qui est une caricature de personnages de comédie musicale, et tout à coup ils sont confrontés à un énorme monstre à tentacules qui est un hommage à The Brain from Planet Aarhus, au film de Nathan Duran, enfin voilà, avec animé en stop motion, le gros monstre arrive et commence à les attaquer et puis il leur envoie son dard dans le cerveau pour en faire des zombies, et il y a toutes les conventions du film comment dire, de SF des années 50, sauf que nos deux héros sont bien embêtés parce que comme il le dit en chantant à sa dulcinée, nous ne pouvons pas lutter dans un monde de comédie musicale contre des monstres, un truc comme ça, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, on est absolument mort de rire. Et il rencontre le professeur Quatermass, donc hommage à la célèbre série des Quatermass produit par la Hammer, grand classique du film de science-fiction. Et ce professeur Quatermass, qui lui est en noir et blanc, mais forcément, vu que c'est un scientifique des années 50, et il décide de passer le monde en noir et blanc. Hein, donc parce qu'il a un inverseur de réalité pour s'adapter à toutes les situations. Et donc voilà, et c'est parti pour une lutte sans merci contre le monstre géant suceur de cerveau de l'espace. Voilà, c'est très drôle, c'est très bien fait, la post-production est énorme, le scénario est vraiment très bien foutu, c'est de la parodie mais en même temps c'est très bien fait, les acteurs sont très bons, enfin bref, c'est le croisement parfait entre la SF50s et Jacques Demy, donc c'est plutôt ce court-métrage est plutôt un grand moment, mais bon, moi je l'avais déjà vu, donc du coup l'effet de surprise a moins joué, et je dirais que bon, celui-là est un de mes préférés. Et que mon autre préféré, ça va être un court-métrage qui s'appelle En boîte. On verra, on saura lors du palmarès de demain ce qui a été décidé, mais qui s'appelle En boîte en fait, et qui démarre avec un type barbu hirsute dans le noir qui prépare du thé, du café, puis qui découpe des tomates et de la salade. Et tout à coup, on voit une pièce qui vient du plafond. Il commence tout à coup à faire un café. Et on comprend en fait qu'il travaille à l'intérieur d'une machine à café et que c'est lui le bonhomme qui distribue les cafés quand on met une pièce dedans. Et le soir, il sort de sa machine à café et c'est dans une gare en fait, c'est une machine à café dans une gare, il y a un photomaton dans une gare juste à côté, et il tape au photomaton, il y a son pote qui sort avec un appareil photo et la caisse de la journée, et ils rentrent tous dans un, parce que c'est un court-métrage à la fois drôle mais très orwellien, avec une plastique très travaillé en fait, une photographie très particulière qui évoque vraiment les films des années 70, et puis sous prétexte de faire dans l'austérité, les plans ne sont pas austères, par contre il y a des grands plans séquences, il y a des choses très 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 ambitieuses au niveau du filmage, et ce type le soir rentre chez lui, mais chez lui ce sont des sortes de prisons, des cellules dans lesquelles on les amène, ils ont tous un matricule, mais il a quand même reçu une offre d'emploi pour aller bosser au ministère de la communication, donc lui il se rêve en type qui aurait un bureau et qui accueillerait des êtres humains et qui comme ça pourrait parler à des êtres humains, et donc il s'imagine en train d'expliquer à une madame Duchemol, je crois que c'est Dufour d'ailleurs qu'elle s'appelle dans le film, il s'imagine une madame Dufour qui viendrait lui amener un formulaire qui serait mal rempli et lui expliquerait comment le remplir. Seulement il va y avoir une chute bien sûr à ce court métrage, dès qu'il va connaître son nouveau boulot au ministère de la communication, qui à la fois il la rentre et à la fois c'est assez tétanisant, et le film s'appelle En boîte, c'est pas pour rien, et ça rappelle aussi ce petit classique Pierrick connaît, puisque Pierrick étant donné qu'il est un yéti breton, de la chanson bretonne où on est tous dans des petites boîtes, voilà quoi, et c'est assez vraiment excellent quoi. Pour moi c'est mon petit préféré, même s'il est pas vraiment fantastique, mais bon, le côté orwellien, le côté SF là comme ça, ça lui confère quand même un petit aspect fantastique.
Bah, je pense effectivement qu'il a dû beaucoup plaire. Enfin, moi, je l'ai pas vu puisque je suis allé voir The Woman pendant ce temps-là. Mais bon, dans les files d'attente, enfin dans la file d'attente ensuite pour le film dont on va parler, qui est The Most Diaries. J'arrive jamais à me souvenir ce titre. Enfin, en même temps, je me souviendrai pas du film d'ici deux semaines. Enfin bref, dans les files d'attente, les gens racontaient beaucoup ce court-métrage-là. Je pense qu'il a les faveurs du public.
Bah oui, c'est mérité, c'est original, c'est ambitieux. Ça raconte plein de choses, c'est à la fois drôle, mais à la fois très sarcastique et très effrayant, quelque part, puisque c'est quand même une métaphore de nos sociétés contemporaines, quoi. Et puis, c'est vraiment fort, quoi. Puis les acteurs sont bons, mais c'est à la fois drôle et désespérant, hein. Mais vraiment, je pense que c'est le court-métrage qui détonne le plus du lot, même si l'attaque du monstre sort de cerveau venu de l'espace a quand même, je pense, ses chances. Et le lac noir aussi, je pense, a ses chances, parce que esthétiquement, il est énorme, quoi. Je sais pas quel est le budget de ce court-métrage, et je sais pas quelle est l'équipe qui a bossé à la post-production, mais c'est juste l'aspect visuel est juste sublime. Parler de The Most Diaries, bah ouais, c'est le moment d'enchaîner avec ce film. Alors moi, je pense que le désespoir m'atteint terriblement, parce qu'il reste plus qu'un film en compétition à voir. Il a intérêt à être super bon, hein, parce qu'il a même intérêt à être énorme, parce que là, j'en peux plus, quoi. Bon, voilà, The Most Diaries, je plaçais beaucoup d'espoir dans ce film. Comprenez-moi bien, film de pensionnat, de jeune fille, avec une fille maléfique qui arrive dans le pensionnat. Et puis en fin de compte, puis cette fille maléfique, c'est Lily Cole, j'ai oublié de préciser. On a tout de suite envie, nous les garçons, qu'elle soit maléfique, Lily Cole. Et puis en fin de compte, même si le film a des qualités, c'est pas une daube, hein, c'est réalisé de manière impersonnelle, mais c'est propre, la réalisation est assez propre. C'est pas que c'est mal réalisé, c'est que je reprocherais surtout de pas avoir de choix de mise en scène. Du coup, on se demande un peu comment la réalisatrice exploite son sujet, quoi. Mais bon, cette histoire de pensionnat de jeunes filles avec un pensionnat ou avec des jeunes filles riches, mais qui ont toutes visiblement une sorte de passé trouble. Enfin, au moins, il y a une scène qui l'évoque. C'est toutes des filles à papa, mais qui ont des gros soucis. Et dans ce pensionnat. Dans ce pensionnat, elles sont une bonne bande, elles se connaissent depuis des années. Puis il y a cette nouvelle qui arrive, qui s'appelle donc Ernessa Bloch, comme Robert Bloch, hein, bien sûr. C'est un film qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein, dans la subtilité, de toute façon, pour les références. Et puis donc elle arrive, alors que bon. Et puis elle pique Lucie. Il y a deux super copines qui sont Lucie et Rebecca. Et donc cette Ernessa, elle pique Lucie à la petite Rebecca, qui le vit vachement mal, et qui, en plus, la pauvre Rebecca vient de perdre son père, et puis en plus elle a assisté au suicide de son père par lame de rasoir. Alors du coup, elle est devenue elle-même suicidaire, puisque le suicide est donc quelque chose qui se transmet de père en fille, hein. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée de la psychologie du film. Alors après, le film a quand même des qualités. J'ai suivi de bout en bout sans avoir envie de m'endormir, hein, quand même. Je vais pas non plus le descendre en flèche. Bon voilà, puis on a vu tellement, c'est dépitant, mais bon, on a vu jusqu'ici une compétition tellement moyenne que en fin de compte, s'il est dans la moyenne des films en compétition, disons que c'est un, il sort jamais de son, il aurait pu être un film pour adultes, ça reste un film pour ados qui traite un peu, qui est une sorte de métaphore sur la découverte de son corps et de la sexualité par une adolescente, et puis aussi Enfin, l'appréhension de la mort et tout ça, et puis la catharsis, devenir une adulte, mais en même temps se délivrer de ses angoisses, voilà, enfin, tous ces thèmes-là, c'est classique. Et pourtant, moi j'adore les films d'adolescents et d'adolescentes, mais j'adore vraiment ça, que ce soit pour les garçons super graves ou que ce soit pour les filles, des films comme The Virgin Suicide. Enfin, c'est vraiment des films qui me passionnent. Et le film, en fait, il y a une scène qui est vraiment révélatrice de ce film qui transgresse pas. En fait, alors il y a plein de belles idées. Hein. Il y a une cette idée qui tourne autour le générique est très joli. Bien sûr, l'éclosion du passage à l'âge adulte symbolisé par le papillon. Mais il y a donc des scènes avec des papillons. Enfin, il y a des bonnes idées avec des papillons qui sont pas exploités justement.
Faut dire que The Must dans le titre, ça veut dire papillon de nuit.
Voilà, c'est ça. Et puis Diary, c'est pour le journal. Diary, c'est pour le journal en fait.
Journal
tenu,
intime.
Voilà, journal intime. Qui est tenu en fait par l'héroïne. Donc il y a aussi une voix off du coup qui devient un peu embarrassante, mais bon, je vais t'essayer de développer sur le film, Pierrick, mais il y a quand même une scène, moi, qui révèle bien le film, je trouve, que parce que le film, il a quand même un fort potentiel. Et puis le physique de Lily Cole, je dis pas que c'est une grande actrice, mais elle a vraiment un physique très particulier qui s'y est pas vraiment bien au rôle qu'on lui a attribué. Et malheureusement, c'est exploité que par bribes. Et il y a une scène qui symbolise bien ce qui se passe dans le film, que le film va jamais au bout de ce qu'il prétend défendre comme sujet. En fait, on sait pas trop quel sujet d'ailleurs elle défend, puisque elle est toujours le cul entre deux chaises, la réalisatrice. Mais il y a une scène qui est vraiment révélatrice de tout ça, qui a provoqué une réaction du public qui nous a bien fait rire. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a l'héroïne qui se fait embrasser par un garçon qui, en l'occurrence, est son professeur de littérature, qui justement est une idole de son père, parce que son père, qui s'est suicidé, était un grand poète maudit, voilà. Et donc il lui fait un gros béco, quoi, et il commence à lui déboutonner sa chemise, et tout le monde dans le public fait ouais, et puis deux secondes après elle s'en va, elle refuse qu'il lui déboutonne sa chemise, et tout le monde fait oh. Mais c'est un peu ça le film, en fait. C'est une succession de un sujet qui aurait pu avoir des développements vachement intéressants et qui ne fait que les effleurer et qui va jamais au bout. D'ailleurs, au bout du compte, on sait même plus si c'est un film fantastique ou pas, ou si c'est juste un film sur une construction mentale de l'esprit de cette héroïne qui en fait délire complètement, et c'est une métaphore de son passage à l'âge adulte, quoi. Voilà, enfin bon, bref, voilà, Pierrick. Donc voilà, ce film, je l'ai pas détesté, mais bon, ça se regarde, mais ça s'oublie, quoi. Voilà,
bah, en même temps, je vais pas rajouter grand chose de plus que toi, parce que tu as dit un petit peu ce que je pensais. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ça très poussif, la réalisation terne, j'ai détesté la musique. Je trouve que les personnages sont pas incarnés, les acteurs...
Si, t'es plus méchant que moi, tu vois.
les acteurs pas terribles, notamment l'actrice qui joue Rebecca. Effectivement, alors Lily Cole, hein, c'est ça le nom de... Moi, je la connaissais pas, de l'actrice qui arrive. Elle a un physique vraiment très étrange de poupée et tout.
Visage de poupée en porcelaine, mais un corps de bombe atomique avec des jambes interminables. Très étrange, parce que ça donne une tête d'enfant sur un corps de femme, en fait.
Mais effectivement, il y a rien qui est exploité dans le film. Il y a aucun choix tranché dans les idées, dans les thématiques. Enfin, c'est-à-dire, on comprend. Enfin, il y a des choses qui sont esquissées sur la sexualité un peu trouble de l'héroïne. Enfin, qui passe à l'âge adulte, qui se cherche un peu. Et voilà, bon, ça donne rien. Enfin,
il y a des choses très étranges aussi, parce que par exemple,
sur l'amitié, c'est pareil, ça donne pas grand chose finalement.
Parce que ça, c'est une bonne idée en fait, de voir l'amitié comme quelque chose de ultra sacré au niveau de l'adolescence, surtout quand on n'a pas encore eu de rapport sexuel, où effectivement l'amitié en fait, c'est le seul acte d'amour qu'on connaisse réellement. C'est plutôt bien vu, et puis en fin de compte le thème, c'est pareil, se délite dans autre chose, et y a plein de choses comme ça. Il y a effectivement la sexualité, mais il y a plein d'autres thèmes dans le suicide.
On a l'impression que dans le groupe des filles, c'est elle qui est peut-être qui a un peu peur de la sexualité, enfin qui est peut-être la plus mal à l'aise avec ça. Enfin, c'est un peu l'impression que donne une conversation au début. Mais bon, finalement, ça passe à l'as. Enfin, la réalisatrice ose à aucun moment empoigner son sujet, quoi. Et dans les thématiques, bon, ce que tu disais, il y a aussi l'histoire du suicide. Et dans la forme, puisqu'on reste dans cette réalisation très plate, très, très terne, il y a vraiment aucun choix. Enfin, c'est trop facile, quoi. Au bout d'un moment, voilà, ça finit par provoquer un lourd ennui.
Mais il y a un truc étrange quand même, c'est qu'il y a des choix étranges. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même une scène très violente, enfin très violente, très gore en tout cas. Et puis, enfin avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, oui, enfin c'est quand même une scène qui est gore. Il y a des litres de sang.
Je sortais de The Woman, donc ça m'a paru très gentil. Hein.
Oui, bien sûr, mais bon, on n'est pas dans le même niveau cinématographique, mais c'est pareil, c'est une idée qui tombe à plat en fait. C'est pareil, c'est pas exploité. Il y a plein d'idées comme ça qui débutent, qui sont pas exploitées. En fin de compte, on sait même pas si ce personnage de Lily Cole est vraiment maléfique ou si elle la croit maléfique. On sait pas s'il y a une épidémie de suicide ou si c'est plutôt l'héroïne qui provoque. À la fin, on sait même pas si elle tue le fantôme ou elle le tue pas. Je révèle rien.
Si c'est un fantôme ou un vampire.
On sait pas si c'est un fantôme ou un vampire. On sait pas si c'est une sorte de femme.
Sous prétexte de maintenir tout le temps l'ambiguïté, le mystère, le trouble, finalement, la réalisatrice passe à côté de tout et elle fait rien, quoi.
C'est décevant. En plus, c'est un film de femme, donc on aurait pu se dire que c'est quelque chose qu'elle aurait pu capter, justement. Du coup, je change pas trop d'avis sur la réalisatrice d'American Psycho. Même si, bon, je trouve que l'actrice principale, moi, je la trouve plutôt bien. Je trouve qu'elle joue plutôt bien. Je l'ai trouvée vraiment bien, cette actrice, mais bon. Je trouve juste que, et y compris des aspects un peu graveleux. Par exemple, il y a un moment où le prof, juste avant qu'il l'embrasse, en fait, une scène avant, lui met la main sur la cuisse, comme ça, dans la cour, alors qu'il y a des élèves et tout ça. Bon, on aurait pu se dire, ça va déborder, ça va faire un truc un peu glauque, je sais pas que je veux du glauque, mais, j'aime bien du cinéma qui a quand même un peu des coronesses, quoi, tu vois, des cinéastes qui ont quelque chose à dire, quoi, et que ça allait déborder sur autre chose. En fin de compte, ça tombe à l'eau, et puis c'est assez étrange parce que, on n'hésite pas à nous montrer, quelque part, ça, c'est un côté très pudibond, parce qu'on n'hésite pas à nous montrer ces filles, qui fument des pétards, tout ça et tout.
Il y a une scène où elle a ses règles aussi, qui est assez directe, assez
voilà,
cool.
Voilà, cette scène-là, c'est direct, il y a cette scène gore, là, mais à côté de ça, il y a plein de trucs qui sont pas exploités. Et puis au niveau sexe, c'est pas qu'on est particulièrement obsédé, mais là pour le coup, c'est évoqué, il y a même la possibilité d'une relation lesbienne entre sa meilleure copine et cette fille interprétée par Lily Cole, qui a un prénom imprononçable là, donc Mademoiselle Bloch, et puis en plus sa copine s'appelle Lucie alors qu'ils étudient Dracula, enfin bon, il y a des trucs assez lourds. Puis au final, le final, on nous explique en voix off, en gros, qu'elle a fait un truc méchant, mais qu'elle sera pas condamnée parce que voilà, il y a aucune chance. Il y a pas à nous le dire tout ça. Enfin, je trouve que il y a des trucs, c'est vraiment, il y a des gros sabots. Et puis, je suis assez déçu, voilà, de ma journée, et je suis même déçu de ma semaine pour l'instant. Donc voilà, et j'en attends beaucoup, donc du film de demain. Et donc le film de demain, ce sera Baby Call, hein, qui est un film de Pål Slettåen, qui est donc un réalisateur norvégien qui a déjà d'autres films à son actif, et puis qui a déjà remporté plusieurs prix, dont c'est marqué dans le dossier de presse, des Lions d'Or, je sais pas, enfin bon, déjà un Lion d'Or et un Lion d'Argent, visiblement, ça doit être plutôt ça. Et donc, on en attend beaucoup, parce qu'il y a Noomi Rapace dans le film, qui a été la révélation de Millennium première version, et puis parce que l'histoire de base est plutôt attrayante. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, l'histoire du baby call dans lequel on entend un meurtre à l'étage. Maintenant, moi, je n'ose plus croire en rien, mais bon, j'espère quand même que ce dernier film sera le meilleur.
Ouais, enfin, moi, honnêtement, le scénario, enfin, avant même d'ailleurs de voir la compétition, c'est pas vraiment le film déjà sur les 8 dans lequel je passais mes espoirs.
Mais justement,
je serais peut-être agréablement surpris. J'ai un peu peur du début de l'histoire, de ce procédé. Bon, après, ça va peut-être donner quelque chose de bien, un bon thriller, peut-être, finalement.
Faut voir. Qui vivra verra. Si nous survivons à la grande faucheuse de Gérard May, peut-être demain verrons-nous un bon film. Peut-être en verrons-nous également un mauvais. On ne sait pas.
Non, c'est vrai que la sélection jusqu'ici est vraiment décevante.
Voilà, c'est triste. Sniff, là, ça ne nous empêchera pas quand même de vous retrouver demain. C'était Culture Prohibée. Culture Prohibée, émission préparée et animée par les équipes des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Plus d'infos sur le blog culture-prohibée.blogspot.com. Cette émission était préparée et animée par vos deux animateurs préférés, Pierrick, Pierrick Guénec, dit le Yeti breton, Jérôme Potier, donc votre serviteur, dit la Gorgone, and the last but not the least, Léo Manien, à la technique. Salut les gens, à demain.
The wind that cracks the leaves has scattered all the seed. Though the light limbed low, low to the ground. The time is all I own, and time is come and gone. The limbs of life left low, low to the ground. The ground, to the ground, to the ground. The sight that holds my eyes has made the lovers blind. Alike their love laid low to the ground. I sound the oath to sit in thrall of weather's wit. A lie the languished lips, low to the ground. The ground, to the ground, to the ground. The seed that left the tree will carve a thousand leaves and let them all to cleave to the ground. To the ground, to the ground, to the ground, to the ground. Da-dee-da-dum. the ground.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da